Évangile selon Matthieu, chapitre 12. Le Fils de l'homme, Seigneur du sabbat, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. En ce temps-là, Jésus allait par les blés un jour de sabbat, et ses disciples avaient faim et se mirent à arracher des épis et à manger. Et les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voilà, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire en un jour de sabbat. Mais il leur dit: n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger ni à ceux qui étaient avec lui, mais au sacrificateur seul? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs dans le temple profanent le sabbat et ne sont pas coupables? Mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et si vous aviez connu ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat.
Lecture de l'étude. Dans le chapitre précédent, Jésus constate pleinement son rejet et le ressent douloureusement dans son cœur. Ici, ce rejet s'accentue et les conséquences pour le peuple juif sont présentées, savoir le rejet du peuple et son jugement. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, ayant faim, se mirent à manger des grains. La loi de Moïse permettait de faire cela en passant dans le champ de son prochain, pourvu que l'on se bornât à arracher les épis, sans les couper avec la faucille. Deutéronome 23, verset 25.
Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main, mais tu ne lèveras pas la faucille sur les blés de ton prochain.
Mais c'était le sabbat, et les pharisiens firent observer au Seigneur que les disciples commettaient un acte interdit ce jour-là. Jésus rappelle que David, lorsqu'il fuyait de devant Saül, 1 Samuel 21, mangea des pains de proposition que les sacrificateurs seuls avaient le droit de manger. David, comme Jésus, était le roi rejeté. À quoi donc servait l'observation des ordonnances si l'on méconnaissait le roi? Le Seigneur cite un autre fait, c'est que les sacrificateurs qui officiaient dans le temple le jour du sabbat n'étaient pas tenus pour coupables parce qu'ils se trouvaient dans la maison de Dieu sur la terre. Jésus ajoute: mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. C'était Dieu lui-même au milieu de son peuple, non dans le temple, mais dans la personne de son Fils, ce Fils que nul ne connaît si ce n'est le Père. Et si vous aviez connu, dit-il, ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. Si les pharisiens avaient compris que Dieu visitait son peuple en pure miséricorde, ils auraient agi selon cet esprit et n'auraient pas condamné les disciples qui, vu l'état des choses, n'étaient pas coupables. Puis Jésus ajoute: car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Jésus étant rejeté comme Messie, tout le système légal était mis de côté, et le Seigneur prend le titre de Fils de l'homme dont les droits s'élèvent au-dessus de tout, de sorte qu'il pouvait disposer du sabbat au lieu de lui être soumis. Mais les pharisiens voulaient garder le sabbat ainsi que tous les privilèges extérieurs qui appartenaient au peuple juif, tout en rejetant le Messie, Dieu lui-même qui leur avait donné la loi. Le sabbat rappelait l'alliance de Dieu avec son peuple. Exode 31, verset 16-17.
Et les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération. Une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'est reposé et a été rafraîchi.
Ézéchiel 20, verset 12.
Et je leur donnai aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie.
Dieu montrait par là à Israël son intention de le faire participer à son repos. mais, avec le principe légal, on ne peut trouver de repos d'aucune sorte, parce que la loi a démontré l'incapacité de l'homme à faire le bien et sa perte irrémédiable. Or Israël avait non seulement violé la loi dès le commencement, mais il rejetait son sauveur et son roi, et dès lors il perdait droit à la bénédiction sur le pied de la loi. Inutile donc de conserver les ordonnances légales, puisque, sous elles, les hommes périssaient. Dieu désirait agir en grâce envers Israël, comme envers tous, car il ne peut se reposer en voyant l'homme demeurer sous les conséquences du péché. Le Seigneur ne voulait pas laisser croire à ce pauvre peuple qu'il pouvait continuer à observer le sabbat, tout en le rejetant lui-même, lui son sauveur. Il était là pour travailler en grâce. « Mon père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille, dit-il dans une circonstance semblable. » Jean 5, verset 17. C'est pourquoi, au chapitre précédent, il invite à venir à lui pour avoir le repos que jamais la loi n'a pu donner. 8. Guérison d'un homme ayant la main sèche, versets 9 à 13.
Lecture de la parole. Et étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Et voici, il y avait là un homme qui avait la main sèche. Et ils l'interrogèrent, disant, « Est-il permis de guérir le jour de sabbat ?» afin de l'accuser. Mais il leur dit, « Quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis, et qui, si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera pas ? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis ? De sorte qu'il est permis de faire du bien le jour de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Lecture de l'étude. Le fait suivant démontre que le système légal sous lequel les Juifs voulaient absolument demeurer ne pouvait convenir au misérable état dans lequel l'homme était tombé. Il y avait, dans la synagogue, un homme à la main sèche, et les Juifs, pour pouvoir accuser Jésus, lui demandèrent s'il était permis de guérir le jour du sabbat. Mais il leur dit, « Quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis, et qui, si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera pas ? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis ? » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Or, puisque les Juifs ne tenaient pas compte du sabbat pour sauver une brebis, combien plus Dieu travaillerait-il en grâce tous les jours pour délivrer les hommes tombés sous les conséquences terribles du péché.
Versets 14 à 21.
Lecture de la parole. Et les pharisiens, étant sortis, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Mais Jésus, le sachant, se retira de là, et de grandes foules le suivirent, et il les guérit tous, et il leur défendit expressément de rendre son nom public, afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant, « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme a trouvé son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations. Il ne contestera pas, et ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait produit en victoire le jugement. Et les nations espéreront en son nom. »
Lecture de l'étude. La guérison de cet homme, et plus encore les paroles de vérité que les pharisiens venaient d'entendre, les exaspérèrent au point qu'ils tinrent conseil pour faire mourir Jésus. Mais Jésus, le sachant, se retira de là, suivi de grandes foules, et il guérit tous les malades. La haine implacable des Juifs à l'égard du Seigneur ne l'empêchait pas de répondre aux nombreux besoins que de la foule qui l'entourait, malgré l'animosité de ses chefs. L'amour du Seigneur ne cherchait qu'à se satisfaire en faisant du bien, en délivrant ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Acte 10, 38.
Jésus, qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance.
Il accomplissait la volonté de son Père, et ne voulait pas attirer sur lui l'attention curieuse des hommes, ni leur louange. C'est pourquoi il leur défendit expressément de publier son nom, afin que fût accomplie cette parole d'Ésaïe 42, versets 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, et il n'élèvera pas sa voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. » Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas, et il ne se hâtera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles s'attendront à sa loi. Quel contraste entre l'appréciation de Dieu et celle des hommes au sujet de son Fils. Il est dit de lui qu'avant la fondation du monde, il était le nourrisson de Dieu, ses délices de tous les jours, toujours en joie devant lui, Proverbe 8, verset 30. Quand Dieu eut besoin d'un serviteur pour accomplir sa grande œuvre sur la terre, c'est ce bien-aimé qui fut élu pour cela. On comprend donc la satisfaction que le cœur de Dieu éprouva en le voyant ici-bas. Aussi, il a pu dire en d'autres circonstances, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, Matthieu 3, verset 17 et 17, verset 5. » Mais, hélas, rien ne fait mieux ressortir l'abîme moral qui se trouve entre Dieu et l'homme que l'appréciation de l'un et de l'autre quant à la personne du Seigneur, ainsi que le montrera la suite de notre chapitre. Qu'est-ce que Dieu peut attendre d'un être qui est si parfaitement l'objet de ses délices éternelles? Comment un tel homme peut-il être agréable à Dieu? C'est pourquoi Paul dit « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu » Romains 8, verset 8. Mais du Seigneur Jésus, Dieu peut dire « Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations. » Nul ne pouvait recevoir l'Esprit de Dieu si ce n'était Jésus à cause de sa propre perfection. Il fut scellé dès son entrée publique dans ce monde. Tandis que le croyant ne peut recevoir le Saint-Esprit qu'une fois purifié de ses péchés par la foi au sang de Christ, ainsi que nous l'avons vu au chapitre 3. Il ne contestera pas, et ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ces paroles indiquent bien le caractère de grâce de cet homme doux et humble de cœur, agissant dans la puissance de l'Esprit pour accomplir son œuvre d'amour sans attirer l'attention, s'effaçant toujours dans une parfaite abnégation de lui-même, contrairement aux hommes qui font beaucoup de bruit pour peu de choses. On l'a dit, le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. Venu pour accomplir la volonté de son Père, c'est pour lui que le Seigneur agissait toujours. Il ne cherchait que son approbation, jamais celle des hommes, ni même celle des disciples. Chers lecteurs, prenons pour modèle ce serviteur parfait. Soyons pénétrés des principes qui le faisaient agir, afin que notre vie, notre service se réalise en vue de plaire à Dieu seul. Car si nous lui sommes agréables en ce que nous faisons, nous accomplirons toujours le bien, et nous serons sûrement agréables et utiles à d'autres. Le jour viendra où le travail de chacun sera manifesté, selon l'appréciation du Maître, et où chacun recevra sa louange. Un autre trait de la grâce, de la bonté qui caractérisait Jésus est indiqué par ses paroles. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait produit en victoire le jugement. Et les nations espéreront en son nom. Le roseau froissé représente l'état de faiblesse du peuple juif, écrasé sous la domination romaine, quoique tiré de l'idolâtrie pour être la lumière de Dieu au milieu des nations. Cependant, le Seigneur tient compte du peu qu'il trouve, jusqu'au moment où le jugement introduira son règne, et alors les nations espéreront en son nom, lors même qu'il semble souvent que c'eût été juste d'en finir avec un tel peuple. Ce sauveur débonnaire et plein de grâce agit de même envers chacun de nous. Le blasphème contre l'Esprit, versets 22 à 32.
Lecture de la parole. Alors il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient hors d'elles et disaient, « Celui-ci serait-il le fils de David ?» Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, chef des démons. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort? Alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir.
Lecture de l'étude. Un homme démoniaque, aveugle et muet fut amené au Seigneur, et il le guérit. Les foules, voyant un miracle si merveilleux, disaient avec étonnement, « Celui-ci serait-il le fils de David ?» En entendant cela, les pharisiens, qui redoutaient les effets de la puissance de Dieu, ne pouvant renier le miracle, l'attribuent au chef des démons. Leur haine pour Jésus les aveuglait à tel point qu'ils ne se rendaient pas compte de l'absurdité de leur accusation. Car, comme le Seigneur le leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? C'est par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur chassait les démons. Pour s'en servir contre Satan, il avait dû lier l'homme fort lors de la tentation au désert. Et en vertu de cette victoire, il pouvait piller ses biens, c'est-à-dire délivrer ceux que Satan avait asservis à sa puissance. Le déploiement de cette puissance sur les démons prouvait que le royaume était parvenu jusqu'à ces misérables juifs. C'est par l'exercice de cette puissance que s'établira plus tard le royaume lors de l'apparition du Fils de l'homme. Cette accusation de chasser les démons par Béelzébul constituait un péché d'une gravité exceptionnelle, car ce n'était rien moins qu'attribuer à Satan la puissance par laquelle le Seigneur agissait. Aussi le Seigneur dit que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Le Seigneur dit aussi, en parlant de ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quelle grâce insondable ces paroles révèlent. Mais traiter la puissance du Saint-Esprit de puissance du diable, cela ne serait pardonné à ceux qui s'en rendraient coupables, ni dans ce siècle-ci, le siècle de la loi, le siècle où les Juifs étaient alors, ni dans le siècle à venir, le siècle où le Seigneur établirait son royaume en vertu de cette même autorité. Car comment des hommes qui attribueraient à Satan la puissance par laquelle le royaume serait établi, pourrait-il avoir la vie pour y entrer? Le temps actuel est celui de la grâce, qui se trouve entre les deux siècles mentionnés. Il y a des personnes que l'ennemi trouble de nos jours, en leur faisant croire qu'elles ont commis le péché ou blasphémé contre le Saint-Esprit, et que par conséquent elles ne peuvent être sauvées. Pour le commettre, il faut se trouver dans le temps où cette puissance s'exerce. Aujourd'hui, quiconque croit à la vie éternelle. Bon trésor et mauvais trésor. Versets 33 à 37.
Lecture de la parole. Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Race de vipères, comment étant méchants pouvez-vous dire de bonnes choses? Car de l'abondance du cœur la bouche parle. L'homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et l'homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Et je vous dis que, de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.
Lecture de l'étude. Dans les versets 33 à 37, le Seigneur montre à ces hommes que leurs paroles manifestaient ce qu'ils étaient, des méchants, du cœur desquels ils ne pouvaient sortir de bonnes choses, car de l'abondance du cœur la bouche parle. L'arbre est connu par son fruit. Comme c'est par la bouche que se manifeste l'état du cœur, il faudra rendre compte à Dieu au jour du jugement de toutes les paroles oiseuses qu'on aura dites. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. De même aussi il est dit, du cœur on croit ta justice, et de la bouche on fait confession à salut. Romains 10, verset 10. Car comment savoir si quelqu'un est sauvé s'il ne le confesse pas? Seigneur dit au verset 35, « L'homme bon du bon trésor produit de bonnes choses, et l'homme mauvais du mauvais trésor produit de mauvaises choses. Comment peut-il venir quelque chose de bon de l'homme? Car il est dit que « Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu » Luc 18, verset 19. Pour qu'il puisse sortir quelque chose de bon de l'homme, il faut que Dieu y ait premièrement placé ce qui est bon. Il le fait par la nouvelle naissance, cette régénération dont parle Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. Mais ce n'est pas tout que d'être né de nouveau. Il faut ensuite écouter la parole, s'en nourrir, la lire. C'est l'exhortation que donne Jacques dans le verset suivant. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lente à la colère, que nos pensées soient formées par la parole de Dieu, afin que nous puissions, de ce bon trésor, produire de bonnes choses. Souvenons-nous qu'il ne peut rien venir de bon de notre cœur, sinon ce que Dieu y met par sa parole. C'est pourquoi nous trouvons constamment, dans les discours de la sagesse, ces exhortations « Écoute, écoutez, n'oublie pas mes enseignements, sois attentif à mes paroles », etc., etc. Proverbe, chapitre 1, chapitre 9. L'auteur de ce livre, lorsqu'il était encore jeune, et que Dieu lui disait « Demande ce que tu veux que je te donne », au lieu de souhaiter des richesses, répondit « Donne-moi un cœur qui écoute ». Hébreux 3, verset 9. Que ce soit là votre prière, afin que Dieu puisse aussi vous dire « Voici, j'ai fait selon ta parole », verset 12. Car bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie, et acquiert faveur de la part de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 8, versets 34 à 36. Le signe de Jonas, versets 38 à 42.
Lecture de la parole. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon.
Lecture de l'étude. Il est peu de portions de l'Évangile qui montrent, comme le fait ce chapitre, la méchanceté et l'aveuglement de ces hommes religieux qui entouraient le Seigneur. Après avoir vu les guérisons merveilleuses qu'ils venaient d'accomplir et entendu dire aux foules frappées par ces signes évidents de la présence du Messie au milieu d'elles, celui-ci serait-il le fils de David ? Les scribes et les pharisiens osent venir à Jésus avec cette requête. « Maître, nous désirons voir un signe de ta part, verset 38-42. » Le Seigneur leur répond selon la connaissance qu'il avait de leurs intentions. Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce signe, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Bien qu'il eût accompli toutes les œuvres par lesquelles il pouvait reconnaître en lui le Messie promis, il ne voulait rien de lui. Ainsi, le seul signe à leur présenter, puisque tout autre était inutile, était celui de Jonas, sa mort, résultat de leur haine contre lui. Mais sa résurrection est aussi comprise dans ce signe, puisque Jésus ne sera que 3 jours et 3 nuits dans la terre. Une note en bas de page. On a souvent objecté à ce passage que le Seigneur n'avait pas été 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre, puisqu'il avait été enseveli le vendredi soir et qu'il était ressuscité le dimanche matin. Cette apparente inexactitude provient de la manière de compter des Juifs, qui considéraient comme entière une journée dont une partie seulement entrait dans l'espace de temps embrassé. Ainsi le Seigneur fut enseveli le vendredi soir, ce qui fait le premier jour. Il passa le sabbat en entier dans le sépulcre et ressuscita le matin du premier jour, dimanche, 3e jour. Ce signe impliquait en même temps leur condamnation. Ils se montraient bien inférieurs aux païens de Ninive qui s'étaient repentis à la prédication de Jonas. Et ils avaient au milieu d'eux quelqu'un de plus grand que Jonas. Ainsi, au jour du jugement, ce mépris de Jésus, le divin prédicateur, aggravera fort leur condamnation, et la reine de Sheba se lèvera en témoignage contre eux, car la sagesse de Salomon l'avait attirée des bouts de la terre, tandis que cette génération a eu au milieu d'elle, non pas Salomon, mais la sagesse même, cette sagesse qui parle au chapitre 8 des Proverbes, et elle n'en a rien voulu. Le sort d'Israël incrédule.
Lecture de la parole. Or quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante.
Lecture de l'étude. Dans les versets 43 à 45, Jésus donne un tableau de l'état terrible de cette génération au dernier jour, comme conséquence de son incrédulité. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Le Seigneur prend pour figure de l'état d'Israël au dernier jour ce qui pouvait arriver, paraît-il, à un homme dont un démon était sorti. Dieu seul sait tout ce qui se passe dans ce domaine invisible, où se meuvent les mauvais esprits. Ce démon, une fois sorti de l'homme, représente l'idolâtrie à laquelle s'était livré le peuple d'Israël autrefois et qui avait causé sa transportation à Babylone. Car l'idolâtrie n'est autre chose que l'adoration des démons. 1 Corinthiens 10, verset 19-20.
Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose? Ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons.
Revenu de la captivité, le peuple ne retomba pas dans l'idolâtrie. Le temple fut rebâti, le culte lévitique rétabli. Extérieurement, tout paraissait en ordre. C'est au milieu de cet état de choses que Jésus vint pour être reçu dans sa maison. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Si le démon de l'idolâtrie avait été chassé, c'était pour que le peuple reçût son roi. Mais comme il s'y refusait, la maison restait vide, non seulement vide et balayée de l'idolâtrie et ornée de formes du culte du vrai Dieu, mais vide aussi de celui qui venait apporter à son peuple bien-aimé les bénédictions promises. On l'avait rejeté en disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous » Luc 19, verset 14. Alors, ce démon de l'idolâtrie s'étant trouvé à son aise en Israël, il revient, trouve la maison vide et bien préparée à le recevoir, prend avec lui sept autres démons plus méchants que lui-même, entre et habite là. Rentré dans son pays, ce qui aura lieu prochainement, le peuple juif se trouvera dans le même état d'incrédulité quant à Christ qu'au temps où Jésus était sur la terre. Le temple sera rebâti, le service lévitique rétabli, tout marchera pendant un temps avec les formes du culte juif. Et bientôt qui viendra occuper le temple ? Le Seigneur, rejeté autrefois et l'étant toujours, il est caché dans les cieux. Nous trouvons la réponse à notre question en 2 Thessaloniciens 2, verset 4.
Le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
C'est l'Antichrist, l'homme de péché, celui dont le Seigneur parle en disant aux Juifs, « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Jean 5, verset 40. Telle est cette idolâtrie de la fin, sept fois pire que celle qui amena la transportation d'Israël à Babylone. Elle aura pour conséquence le jugement radical exercé par le moyen du terrible Assyrien, alors que le résidu croyant recevra le Christ pour sa délivrance, et constituera le nouvel Israël qui jouira du règne millénaire du vrai fils de David. La mère et les frères du Seigneur. Versets 46 à 50.
Lecture de la parole. Et comme il parlait encore aux foules, voici, sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais lui répondant, dit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »
Lecture de l'étude. Comme Jésus s'adressait aux foules, on vint lui dire que sa mère et ses frères cherchaient à lui parler. Mais il répondit, « Qui est ma mère ?» Et qui sont mes frères? Et étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. L'état d'Israël, représenté par la mère et les frères de Jésus, ne lui permettait plus aucune relation avec le Seigneur. Jésus prononce donc la rupture de ses relations avec ce peuple. Mais il reconnaît de nouvelles relations avec ceux qui recevront sa parole et feront la volonté de son Père. Nous savons que sa mère était du nombre de ceux-là et que, plus tard, ses frères entrèrent aussi dans ces mêmes relations avec lui, bien que, pendant un temps, ils n'eussent pas cru en lui. Désormais, tout est fini avec Israël selon la chair, comme peuple de Dieu, par son incrédulité. Il s'est exclu lui-même des bénédictions qui lui avaient été apportées avec tant de grâce et d'amour. Mais Dieu a ses ressources à lui et agira par sa parole pour se former un peuple céleste, comme nous le verrons au chapitre suivant.